La stratégie de sécurité nationale américaine prend les Européens pour cible et ménage les adversaires des États-Unis. Stratégie de sécurité nationale américaine, le plan de la Maison-Blanche contre l'Europe. Trump veut réajuster la stratégie de défense américaine et prédit l'effacement civilisationnel de l'Europe. Pourquoi la nouvelle stratégie de défense américaine est un camouflet pour l'Europe ? Stratégie nationale de sécurité des États-Unis, Donald Trump lâche officiellement l'Europe. Voici quelques titres de presse commentant la publication de la nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis qui montre le sentiment dominant, et assez unanime, d'une attaque contre l'Europe. Cela au milieu d'une activité diplomatique intense entre la visite de Witkoff à Moscou pour négocier la paix en Ukraine, alors que le ministre chinois des Affaires étrangères était non loin dans les couloirs, la visite de Zelensky à Paris, la visite de Macron en Chine. En réalité, ce sont les quatre grands acteurs du jeu mondial, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, qui déploient chacun en ce moment leur nouvelle grande stratégie pour préparer la grande confrontation mondiale qui s'annonce. Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 6 décembre. Ça commence bien. Le 6 décembre 2025, il est 21h33. Bienvenue dans cette émission. Émission un peu particulière, puisque normalement, le camarade Irouma ne sera pas là pour prendre toutes les questions, même s'il a retenu la question principale du dernier live. Vous savez que je réponds à la question du live précédent qui était la plus likée dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, après la fin de l'émission, à aller également poser vos questions dans les commentaires pour faciliter le référencement. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, c'est très bon pour l'algorithme. Et puis on va commencer déjà par ça. Je vais essayer de me débrouiller pour pas perdre les questions. Je rappelle que c'est l'émission hebdomadaire, donc je répondrai aux questions de dons en fin d'émission, et je répondrai aux questions des souscripteurs dans le live privé qui suivra. J'espère que je ne raterai pas les questions des souscripteurs, enfin les questions de dons dans le fil des infos. Sinon vous n'avez qu'à gueuler. Hein. Mais voilà, on va essayer de se débrouiller comme ça. Ce soir donc, on va parler, alors je vais parler de deux choses. D'abord de la façon dont les choses se combinent, je voudrais revenir sur ce concept que j'ai mentionné avec vous de shaping the battlefield hein, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire de la mise en place, les grandes manœuvres en fait, qui doivent préparer la confrontation pour qu'au moment où elle éclate éventuellement, chaque acteur soit dans la meilleure position possible. Enfin, chaque acteur cherche à être, lui, dans la meilleure position possible et est-ce que les autres soient dans des positions moins bonnes naturellement. Et ensuite, dans un deuxième temps, on parlera de la stratégie de sécurité nationale américaine qui a été publiée cette semaine aussi et qui complétera ce propos-là en éclairant en particulier la stratégie américaine. Et on prendra tout le texte en fait et je pense pas que je le lirai en entier, mais enfin on le déroulera parce que je l'ai déjà prélu, hein, je l'ai lu avant, j'ai pris des notes pour vous dire ce que j'en pense et vous donner mon sentiment là-dessus. Et vous verrez que mon sentiment n'est pas celui qui est retenu par la presse, par les commentaires. On verra qu'en fait l'Europe n'est pas si mal placée dans cette stratégie de sécurité nationale. Que la Russie, elle, est vue comme une question accessoire, et la Chine, en revanche, elle est présente à chaque page et comme menace diffuse, en fait. L'idée qu'en gros, ça parle moins de la Chine, etc., c'est en réalité assez faux. Mais j'y reviendrai après. Ce que je voudrais dire en préambule, qui était le sujet que je voulais aborder de base, c'est cette espèce de manœuvre. Alors, effectivement, la chose la plus proche qui m'est venue pour illustrer ça, d'où la vignette, c'est une espèce de twister, parce que chacun est entremêlé et essaie de jouer son propre truc. Mais en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que, je vous ai déjà parlé souvent, je crois que j'ai développé ça la semaine dernière, le fait que les États-Unis cherchent à détacher la Russie de la Chine dans une espèce de manœuvre Kissinger inversé ou Nixon inversé pour contenir la puissance chinoise et préparer la confrontation qui vient. Et qui semble venir de manière de plus en plus certaine, puisque les Américains considèrent désormais qu'il faudrait que l'Europe prenne en charge le leadership de l'OTAN en Europe, c'est-à-dire, grosso modo, soit capable de se débrouiller toute seule, à l'horizon 2027. Cet horizon-là ne vient pas de nulle part. C'est tout simplement, je le rappelle, l'horizon auquel les Américains pensent de plus en plus qu'une tentative chinoise à Taïwan aura eu lieu, et donc qu'à cet horizon-là, les États-Unis doivent être capables de tourner toute leur puissance pour contenir la Chine et ne peuvent pas distraire des moyens pour s'occuper d'autre chose et s'occuper de la sécurité européenne en particulier. Vous voyez que tout ceci commence à faire sens. Et donc, dans ce calcul-là, forcément, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je n'y reviens pas, sur la précipitation dans laquelle les États-Unis tentent actuellement de mettre fin à la guerre en Ukraine. Bien. Mais la réalité, c'est qu'en fait, si vous regardez les choses, on peut systématiser cette approche parce que tous les acteurs de ce quatuor, en fait, hein, États-Unis, Russie, Chine, Europe, ils ont tous la même stratégie, mais pas avec les mêmes pays. Ça qui est assez intéressant. Alors, je reprends. Vous avez ces quatre blocs, si vous voulez. Après, vous avez d'autres endroits, l'Iran, Israël, etc., mais c'est accessoire. Les quatre blocs, parce qu'en fait, les quatre grandes puissances, c'est ça. Vous avez deux alliances, naturellement. Vous avez l'alliance atlantique, l'alliance traditionnelle, c'est-à-dire les alliés, ceux qui étaient les alliés pendant les deux précédents conflits mondiaux, même les trois précédents conflits mondiaux, c'est-à-dire la relation transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. De l'autre côté, vous avez le bloc eurasiatique, c'est-à-dire la Russie et la Chine, qui essaient de s'adjoindre à un certain nombre d'autres, notamment l'Iran, mais le bloc eurasiatique, c'est ça. D'accord ? Bien. Donc ça, ce sont deux alliances qui sont considérées comme acquises de chaque côté, si vous voulez. C'est-à-dire que ou en tout cas, c'est en l'état actuel du jeu, hein, si la guerre commençait demain, les blocs, ce serait ça. Bon. Et donc, à l'intérieur de chacune des alliances, chacun des acteurs essaie de fracturer l'alliance d'en face. Je vous préviens que je risque d'avoir des problèmes d'éclairage ce soir, parce que je les ai déjà eu l'autre jour en enregistrant le bulletin. Alors sur le bulletin, ça n'a pas dû se voir parce que ça a été monté, mais là, il y a peut-être des moments où je serai dans le noir complet, où il faudra que je rallume, je ne sais pas. C'est pas l'ampoule qui est morte, puisque ça se rallume après, mais je ne sais pas ce que me fait mon éclairage. J'espère qu'aucun d'entre vous n'est épileptique, sinon il faudrait que je mette un petit avertissement. Voilà. Si vous regardez à deux et que celui qui est à côté de vous tombe par terre en faisant comme ça, c'est probablement qu'il l'est, n'est-ce pas ? Ouais, bien. Il y aura peut-être un effet stroboscopique à un moment, j'essaierai de... Bon. Donc je disais, chacun des acteurs à l'intérieur de sa propre alliance essaie de fracturer l'alliance d'en face, mais pas de la même manière. Alors comment est-ce que ça se passe ? C'est pour ça que je parle de stratégie croisée, c'est tout simplement. On reprend les quatre acteurs. Du côté de l'alliance atlantique, vous avez les États-Unis. Les États-Unis, ça c'est évident, je ne m'attarde pas plus là-dessus, je vous ai déjà expliqué, essaient de détacher la Russie de la Chine. Parce qu'ils voudraient avoir la Russie dans leur camp, ou en tout cas neutralisée, au moment d'affronter la Chine. Les Européens, si vous regardez, ils font le contraire. Ils essaient de détacher la Chine de la Russie. Et ils essaient de faire ça depuis des années. C'est-à-dire, ils essaient de faire ça depuis le début de la guerre en Ukraine, où les Européens ont été très prompts à se tourner vers la Chine pour aller demander, pour essayer d'obtenir l'aide de Xi Jinping, pour débloquer la situation et encourager Vladimir Poutine à ne plus attaquer et à mettre fin à la guerre. Donc, les Européens et la présence, alors qu'on est en pleine négociation de la paix, justement, en Ukraine, ou de tentative des Américains de brusquer la paix, d'une certaine manière, il y a à ce moment-là Macron en Chine, ça illustre bien cette tentative. Macron se perçoit un peu comme le leader de l'Europe. Hein. En Europe, c'est discuté. Mais disons que pour l'image, en l'occurrence, c'est assez efficace. Il y a eu d'autres négociations aussi On s'en souviendra de la Chine avec l'Europe, que ce soit les Allemands ou avec von der Leyen, c'est aussi les Allemands, mais enfin à l'échelon européen. Au moment de la crise des droits de douane il y a quelques mois, où clairement les Européens, vous avez eu tout un réflexe d'ailleurs de toute une partie, et notamment des centristes européens. Hein, je me souviens avoir vu les Bernard Guetta venir expliquer qu'en gros il allait peut-être falloir s'allier avec la Chine contre les États-Unis. C'est absolument délirant, la promptitude avec laquelle ces gens ont été capables d'envisager cette option totalement délirante. Mais c'est une réalité, donc le réflexe de l'Europe, ça avait été de se tourner vers la Chine pour essayer de voir s'il y avait moyen, à la limite, de faire pression sur les États-Unis, ce qui n'était pas un très très bon calcul. Mais donc l'Europe s'est tournée effectivement vers la Chine et tente, en fait, l'espoir de l'Europe, même si la Chine a opposé déjà une fin de non-recevoir à travers ce qu'avait dit le je ne sais plus si c'était le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, mais que j'ai maintes fois cité, disant qu'il ne pouvait pas se permettre de voir la Russie perdre la guerre. L'Europe cherche à détacher la Chine de la Russie, très clairement. Et en fait, c'est ce qu'on va voir dans tous les trucs, c'est tout simple. Ce qui dicte le mouvement de chacun, parmi les quatre, c'est tout simplement quelle est la menace prioritaire pour lui en fonction des théâtres. C'est-à-dire que pour l'Europe, la Russie, c'est une menace sur sa frontière. Donc c'est très très prioritaire par rapport à la Chine qui est très loin et qui menace pas vraiment les intérêts européens. Il y a quelques intérêts français en Asie, hein, on a des trucs là-bas, mais alors du côté des autres, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios, si vous voulez. Donc forcément, la priorité, c'est l'Ukraine, donc la Russie. Et donc l'idée, c'est de se battre contre la Russie. Enfin, c'est ça qui est perçu comme guerre imminente. Donc il faut détacher la Chine de la Russie pour que la Russie soit battable, de la même manière que l'idée des Américains est de détacher la Russie de la Chine pour que ce soit relativement facile, en tout cas gérable, d'affronter la Chine sans la Russie. Bien. Donc vous voyez déjà comment ça se passe du côté de l'Alliance Atlantique. Mais du côté du bloc eurasiatique, c'est en réalité pareil, parce que vous avez la Russie de Vladimir Poutine qui, elle, utilise les mêmes négociations autour de l'Ukraine, j'en ai parlé la semaine dernière, pour tenter de détacher les États-Unis de l'Europe. Pour la Russie, son ennemi, c'est l'Europe. Clairement. Déjà, c'est traditionnel. Parce que ça fait 200 ans que la Russie essaie de dominer l'Europe d'une manière ou d'une autre. C'est à partir de la Révolution française que la Russie a commencé à jouer véritablement un jeu jusqu'au cœur de l'Europe. Et donc, il y a ce vieux truc. Et inversement, que les Européens, traditionnellement, c'est eux qui ont empêché la Russie d'avancer. On va dire moins pendant la guerre froide parce qu'il y avait les Américains, mais aussi pendant la guerre froide, malgré tout. Parce que, mine de rien, ce sont les Allemands qui se sont étendus avec la réannexion de l'Allemagne de l'Est, et ensuite, l'extension de l'OTAN, c'est autant, voire plus, le fait des Européens, et notamment des Allemands qui se créent une espèce de zone tampon comme ça avec la Russie, que le contraire. Bon. Et quand le danger pour la Russie est mentionné par Vladimir Poutine, c'est toujours en référence à l'attaque des fascistes, etc., et donc aux invasions du territoire, mais ça remonte aussi à l'invasion des Polonais, je pense que c'était en 1611, c'était pendant les temps des troubles, qui était arrivé jusqu'à Moscou, à l'époque de la Pologne-Lituanie. Donc, dans l'esprit russe, l'ennemi prioritaire, c'est beaucoup plus les Européens que les États-Unis. Les États-Unis sont plus vus comme une force qui vient renforcer encore cet ennemi européen que comme étant le principal problème. Parce qu'il y a l'idée que malgré tout, les États-Unis sont de l'autre côté de l'océan, et qu'ils n'ont pas le même intérêt immédiat. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Ce qui explique la position de Donald Trump et la négociation que fait les États-Unis, qui essaie de détacher, encore une fois, la Russie de la Chine. Mais donc la Russie, elle, essaie lors de la même, à l'occasion de la même négociation, de détacher les États-Unis de l'Europe, en développant un discours qui est de plus en plus clair de Vladimir Poutine. Ça a été le cas lors des... je crois que je n'en ai pas parlé la semaine dernière, du coup, parce que ce discours n'avait pas encore eu lieu. J'ai l'impression de faire une redite, parce que j'en ai parlé un peu dans le bulletin. Mais... donc ça s'est arrivé après ce que je vous ai dit la semaine dernière, sur le fait que, d'après moi, la décision d'attaquer l'Europe avait déjà été prise à Moscou, en septembre ou en octobre. Mais d'ores et déjà, Vladimir Poutine commence à dérouler un récit public qui prépare en fait ça, en expliquant que les États-Unis, eux, cherchent la paix, l'Europe cherche à torpiller cette paix, que l'Europe veut la guerre, que si elle veut la guerre, la Russie sera prête à l'amener, mais que c'est pas la Russie qui la veut, etc. Parce que probablement que le moment venu, ce qui va se passer, c'est que vous aurez donc une attaque de la Russie qui se produira à l'encontre de l'Europe, et qui sera couverte par un récit à destination des États-Unis et du monde dans son ensemble, mais surtout des États-Unis, en disant « c'est pas contre vous, ce sont les Européens qui vous ont trahi en vous empêchant de faire la paix que vous cherchez à faire depuis un an ». Donc nous, nous sommes obligés de prendre des mesures, en espérant que ça permettra à ce moment-là de casser l'OTAN. Et je pense aussi qu'il y a une espèce d'incident de Gleiwitz, hein, comme en Pologne pour Hitler, pour justifier la guerre. À mon avis, l'incident devrait avoir lieu contre la Biélorussie, parce que ça permettrait à Vladimir Poutine, aussitôt, de faire entrer en guerre la Biélorussie et de maximiser son avantage lors de premières semaines de son attaque en direction des Pays-Baltes. Et vous avez déjà aussi un narratif qui se met en place sur la responsabilité des Pays-Baltes, puisque vous avez déjà la Biélorussie qui a accusé la Lituanie cette semaine d'avoir violé son espace aérien en faisant circuler un drone au-dessus du ciel biélorusse et qui aurait fait une espèce de boucle comme ça. Je ne sais pas si c'est avéré, en tout cas l'accusation de la Biélorussie est avérée. Donc voilà, on voit des choses se mettre en place comme ça. Mais clairement, la stratégie, c'est la séparation, la séduction des États-Unis, en tout cas la neutralisation des États-Unis, pour se retrouver seul face à l'Europe. Seul face à l'Europe, mais avec la Chine en soutien, hein, bien sûr, puisque la Chine est toujours un soutien de la Russie dans sa guerre en Ukraine. Et enfin, dernier acteur, vous avez la Chine. La Chine qui, forcément, elle tente la dernière combinaison, qui est au contraire de séduire l'Europe pour la détacher des États-Unis. Et de la question de Taïwan notamment. Manière de dire, en gros, si jamais il se passe quelque chose dans le Pacifique, vous les Européens, vous n'êtes pas concernés, on veut continuer à avoir de bons rapports avec vous, c'est uniquement la faute de ces méchants Américains qui essaient de venir intervenir sur nos plates-bandes à Taïwan, mais c'est pas nous. Voilà. Et nous, on est prêts à avoir des relations commerciales avec vous, etc. Donc ils reçoivent Macron, ils jouent à ce petit jeu-là. Dans le même temps, vous avez chacun qui essaie de sécuriser ses propres alliances. Donc vous avez les Chinois qui sont allés à Moscou au moment où les Américains avec Witkoff essayaient leur opération séduction cette semaine. Et puis vous avez malgré tout les États-Unis qui essaient de pas totalement s'aligner l'Europe. Donc vous voyez comment se passe ce... Alors encore une fois, il y avait probablement une autre image que le Twister. Je ne sais pas, c'est peut-être une espèce de tir à la corde croisé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça, mais c'est véritablement ça qui se joue. C'est-à-dire que vous avez deux alliances, l'une en face de l'autre. Chacune essaie de fracturer l'autre alliance, mais chacun des membres de l'alliance essaie de fracturer l'alliance d'en face d'une manière opposée à celle de son co-membre d'alliance, si vous voulez. Donc c'est une espèce de d'équilibre instable comme ça. Mais qui fait que malgré tout, vraisemblablement, au moment où le conflit va éclater, les deux alliances seront toujours existantes. Mais elles seront peut-être fragilisées. Et peut-être plus d'ailleurs l'alliance transatlantique que l'autre, notamment parce qu'elle n'aura pas l'initiative sur le conflit. Par exemple, la manœuvre de Vladimir Poutine, elle peut avoir, je ne pense pas qu'elle aura un effet de lâchage des États-Unis de l'Europe, je ne pense pas que ce sera le cas, mais ça peut avoir un effet déstabilisant pendant un moment, ça peut limiter les moyens qui sont mis en œuvre, ça peut limiter le temps de réponse, etc. Donc tout ceci peut être important dans les premiers jours, premières semaines du conflit, clairement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous, cette question de lutte croisée, parce que je trouve ça en même temps intéressant, et si vous avez ça en tête, vous avez une autre lecture de tous les échanges diplomatique qu'on a vu sur l'année passée, en fait. Et vous comprenez quelles sont les manœuvres qui sont tentées en miroir entre les deux blocs, mais aussi les relations qu'il y a à l'intérieur des deux blocs qui peuvent ne pas être libres de toute arrière-pensée. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, puisque je vous ai fait le principe, et je voudrais maintenant aborder cette question donc, de la stratégie de sécurité nationale américaine, dont on va aller consulter le texte intégral en français, qui a été publié sur le site, qui alors, c'est un accès gratuit en plus, donc on peut les saluer. Donc je vais vous l'afficher, et on va aller le lire de toute façon, sur le site du Grand Continent, qui est un site que je conseille toujours, bien sûr, puisqu'il y a de plus en plus d'analyses extrêmement intéressantes dessus. C'est un site qui se bonifie continuellement, selon moi. Et on va essayer de voir ce que tout ceci donne. Donc, Alors, je vais passer, je vous préviens tout de suite, je vais passer sur tous les passages précisément qui relèvent un petit peu de l'auto-congratulation de Donald Trump, parce que forcément il y en a, hein, qui disent comme le président Donald Trump a fait, comme etc. Ça a été extrêmement personnalisé, je ne sais plus qui a relevé qu'il était 20, 25, 26 fois mention, je crois, du président Trump dans le document, ce qui n'arrive jamais d'habitude. C'est pas autant mis en avant pour le président. En même temps, encore une fois, les États-Unis sont en phase d'absolutisation, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cela. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il commence à expliquer, en gros, pourquoi la stratégie américaine s'est égarée. Bon, là, en gros, ça consiste à expliquer relativement rapidement. Quelles étaient les erreurs depuis la fin de la guerre froide? C'était en gros le fait que les États-Unis veuillent s'occuper de tout. Voilà. Alors, ce qui est sans doute une vision un peu exagérée du truc, notamment avec l'idée qu'en gros les États-Unis n'auraient plus poursuivi leur intérêt propre mais l'intérêt des autres depuis 30 ans. Très honnêtement, je pense que c'est hautement contestable comme vision. En réalité, les États-Unis n'ont jamais cessé de poursuivre leur propre intérêt. Ce qui est probable, mais ça je vous en avais parlé il y a un moment, c'est que les États-Unis, les élites américaines se sont comportées comme des élites impériales et que parfois elles ont pu servir des intérêts étrangers plus que les intérêts américains, mais parce que dans ce cas-là, l'intérêt qui était le plus servi à l'intérieur de ça, c'était eux. C'est-à-dire que vous aviez des élites américaines sans doute qui trouvaient un profit personnel, un peu comme dans n'importe quel empire colonial, dans l'aide à tel ou tel intérêt. Donc, mais l'idée encore de la présidence trumpiste, c'est en gros que c'est à l'intérêt national, donc du peuple en général, que ça doit profiter. Donc l'essentiel de l'introduction, c'est en gros tout ce qui a été fait depuis 30 ans, c'était de la daube, et fort heureusement, Donald Trump a changé quelque chose. Voilà, c'est là que vous arrivez, la correction nécessaire et bienvenue de Donald Trump, avec les nouveaux principes, etc. Bon. Donc ensuite, il y a que voulons-nous en général. Alors là, c'est assez général, mais en gros, c'est l'idée que c'est l'expression d'America First, on doit avoir un pays riche, on doit avoir un pays innovant, etc. C'est, bon, ça c'est assez... c'est pas très original, donc j'ai pas trop envie de le... comment dire... De le dérouler. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le moment où il se pose la question... Je vais essayer de me décaler un peu pour que ce soit plus... Voilà, comment mieux... de savoir que voulons-nous dans et de la part du monde. Ça, c'est assez intéressant comme façon de présenter les choses. Alors, on va le voir ensemble. Donc, ils disent d'abord, nous voulons nous assurer que l'hémisphère occidental reste suffisamment stable et bien gouverné pour prévenir et décourager l'immigration de masse vers les États-Unis. Alors, l'immigration de masse vers les États-Unis, c'est un peu un prétexte, même si c'est important. La réalité, c'est qu'effectivement... Attendez, je vais vous refaire un petit quand même. On va aller faire un tour sur Google Maps pour rappeler certaines vérités géographiques. Ah, c'est chez moi ça. Zut, espace, non. Allez, comment on fait? On peut aller jusque dans l'espace avec... bah. Alors, petit rappel simple. Qu'est-ce que c'est l'hémisphère occidental? Je ne veux pas voir ça. L'hémisphère occidental, naturellement, c'est ceci. Voilà. C'est-à-dire, c'est le Pacifique, l'Atlantique et les Amériques. C'est ça, l'hémisphère occidental. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on appelle les Amériques. C'est-à-dire, c'est l'île périphérique à l'île monde, hein, on aurait dit Mackinder. C'est-à-dire, c'est l'espace que les États-Unis considèrent comme étant leur chasse gardée. C'est là où personne ne doit venir les chercher. C'est ça que la doctrine Monroe, d'ailleurs il va en être question dans le document, garantissait. Vous savez que la doctrine Monroe, ça a été désigné, c'est là, c'est, en fait, là, dès le début de l'histoire libre des États-Unis, la doctrine Monroe, je pense que c'était dans la décennie, je crois que ça vient très tôt d'ailleurs, c'est même 1800. Je sais pas pourquoi j'avais 1820 en tête, on s'en fout. De toute façon, c'est dès le début de l'histoire des États-Unis, si vous voulez. La doctrine Monroe, c'est toute ingérence européenne sur le territoire des Amériques, de l'Amérique en général, est considérée comme une agression contre les États-Unis, comme une intervention contre les États-Unis. Donc, alors bien sûr, dans un premier temps, ça a surtout été sur l'Amérique du Nord, hein, puisque l'idée, c'était que la doctrine Monroe, elle servait à justifier le fait que d'essayer de foutre dehors les Britanniques. Bon. Ensuite, il y a eu la volonté de mettre dehors les Espagnols, et en grosso modo, la doctrine Monroe, elle est terminée au tournant du XXe siècle, avec la guerre hispano-américaine de 1898 qui expulse les Espagnols. Et c'est pas un hasard si c'est à partir de là que vous avez la mise en place du corollaire de Roosevelt. Alors, il y a que Trump qui est un fan de Roosevelt essaie maintenant de mettre en place le corollaire Trump, qui malheureusement pour moi n'est pas très clair. C'est un truc qui est très bien pour son ego, mais le corollaire de Roosevelt, c'était assez clair. Le corollaire de Roosevelt, c'était pour être tranquille aux Amériques, l'Amérique doit aussi pouvoir se projeter n'importe où dans le monde où ses intérêts sont menacés. Donc en fait, c'est un corollaire qui faisait dire encore qu'il est expansionniste. C'est-à-dire que aussitôt que les États-Unis ont considéré qu'ils avaient expulsé des Amériques les Européens, ils ont commencé à dire avec Roosevelt, bon, ben, du coup, on a le droit d'aller aussi à l'extérieur. Hein, voilà, c'était ça l'idée. Mais donc, il y a un petit retour là-dessus, si vous voulez. Et c'est pas un hasard, parce que vraiment, pour Trump, l'époque de Roosevelt, c'est déjà parce que Roosevelt était un populiste comme lui. Hein. Historiquement, c'est la transition oligarchique, c'est la précédente grande évolution de la République américaine. Et c'était le moment où l'Amérique était florissante, et en fait, c'était l'Amérique avant l'Empire, d'une certaine manière, l'Amérique avant l'Empire américain, puisqu'avant les deux guerres mondiales, avant la doctrine wilsonienne, etc. Et en fait, la doctrine wilsonienne a été ce qui a été la doctrine américaine pendant tout le XXe siècle, après, même pendant la guerre froide. Et c'est à ça que Donald Trump veut tourner le dos aujourd'hui. Et donc, c'était de remettre cette Amérique dans cet état-là, qui était son état, d'une certaine manière, pré-impérial. Mais enfin, en même temps, l'état pré-impérial, par définition, c'est l'état dans lequel vous allez vous lancer dans l'Empire. Et on va voir que c'est assez clair que c'est le deuxième effet qui se coule de la grande stratégie américaine. Mais donc, première idée, c'est ça, c'est de sécuriser l'hémisphère occidental. Et très clairement, c'est ce qui prend la plus grosse partie de cette note de stratégie. Vous n'avez rien qui parle autant de ça. Alors, ça a fait dire à certains que ça pouvait être une expression de l'isolationnisme de Donald Trump, du côté de l'Amérique d'abord, etc. Mais la réalité, c'est que ça signifie d'autres choses. Et vous allez voir qu'en réalité, dans cette idée de maîtrise américaine de l'hémisphère occidental, je vais y revenir en suivant le texte, l'idée qu'il y a derrière, c'est notamment, il faut foutre la Chine dehors de l'Amérique, notamment l'Amérique du Sud, parce qu'en gros, on a laissé rentrer la Chine, il faut la foutre dehors. Mais sans jamais la nommer, parce qu'il ne faut pas trop conflictualiser. Puis vous savez, c'est la méthode Donald Trump. La méthode Donald Trump, c'est vous pouvez engueuler les gens, crier, mettre tout d'un coup des gros tarifs, mais vous essayez de ne pas insulter les gens publiquement avec lesquels vous entendez faire un accord derrière. Donc vous pouvez leur imposer des sanctions, vous pouvez leur tenir des propos un petit peu durs, mais l'idée, c'est de jamais les désigner comme des ennemis définitifs, parce qu'il faut qu'il faut pas fermer la porte à un règlement. C'est ça le côté transactionnel de Donald Trump. Et donc du coup, ça amène là-dedans à très peu mentionner la Chine, sauf quand il est question de l'Asie, on va le voir. Mais la plupart du temps, quand il y a, en gros, on a laissé un concurrent venir s'installer un truc, c'est la Chine qui s'agit, très clairement. Et on va y revenir en passant dans le détail, vous verrez ça. Mais d'abord, donc, on reprend. D'abord, que l'hémisphère occidental reste suffisamment stable et bien gouverné, à l'abri des incursions étrangères hostiles. Et alors, ça aussi, j'insiste là-dessus, mais vous reprenez ça. Ce qui se prépare à l'encontre du Venezuela dans la mer des Caraïbes, c'est exactement ça. Le Venezuela est sans doute le pays d'Amérique du Sud qui est le plus lié à la Chine et à la Russie. Il est accusé d'ailleurs, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est Exact. Je pense qu'il y a d'autres pays par lesquels le fentanyl chinois passe plus facilement. Mais en tout cas, c'est sous ce motif que les États-Unis disent qu'ils doivent agir contre le Venezuela. C'est pour le trafic de fentanyl. Le trafic de fentanyl, c'est bien de la Chine. Par ailleurs, on sait que le Venezuela est une sorte d'allié depuis un moment de cet axe russe. Et donc l'idée, c'est d'aller faire une démonstration de force contre le Venezuela, probablement la Colombie aussi un peu après, pour mettre au pas l'ensemble du continent sud-américain. Je crois que j'en ai parlé récemment, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et de rappeler aussi qu'il y a une véritable mesure de tenaille vis-à-vis du Brésil entre le Venezuela, Colombie en haut et l'Argentine au sud. L'Argentine, c'est en soutenant Milei, pour mettre la main définitivement et expulser en fait l'influence chinoise de l'Amérique du Sud. C'est ça clairement le truc qui se prépare. Et donc ça commence par expulser les puissances hostiles, c'est le Venezuela. Et c'est donc éventuellement une mesure au Venezuela. Deuxième point, donc après assurer que l'hémisphère occidental reste suffisamment stable et bien gouverné, nous voulons mettre fin et inverser les dommages continus que des acteurs étrangers infligent à l'économie américaine, tout en maintenant la liberté et l'ouverture de la région Indo-Pacifique, en préservant la liberté de navigation et toutes les voies maritimes cruciales, et en maintenant des chaînes d'approvisionnement sûres et fiables, ainsi que l'accès aux matériaux essentiels. Alors, si je vous relis ça en traduisant, ça donne quelque chose comme China, 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 China. Hein? Je suis désolé, c'est complètement ça. Les dommages que les acteurs étrangers infligent à l'économie américaine, c'est la Chine. On a assez entendu Trump en parler. Tout en maintenant la liberté et l'ouverture de la région Indo-Pacifique, c'est-à-dire en la protégeant de la Chine, en préservant la liberté de navigation contre qui les États-Unis font des opérations de liberté de navigation, dites-le avec moi, contre la Chine. Et dans toutes les voies maritimes cruciales, en maintenant des chaînes d'approvisionnement sûres et fiables, ainsi que l'accès aux matériaux essentiels, c'est-à-dire les terres rares, c'est-à-dire la Chine. Voilà. Donc, premier point, nous voulons nous assurer que l'hémisphère occidental reste suffisamment stable et bien gouverné. Ça reste à nous. Voilà. En gros, c'est on récupère, personne ne vient se mêler des affaires des Amériques. C'est notre continent, personne n'y vient. Deuxièmement, la Chine. On ne la désigne pas. Mais c'est priorité, il faut battre la Chine. Il faut contrecarrer la menace chinoise. Troisième point, nous voulons aider nos alliés à préserver la liberté et la sécurité de l'Europe tout en restaurant la confiance en soi de la civilisation européenne et l'identité occidentale. Alors, on va y revenir plus en détail tout à l'heure quand on parlera des passages qui concernent l'Europe elle-même. Mais déjà, ce n'est pas une attaque, un lâchage, un abandon de l'Europe. Ça peut être une attaque contre certaines choses en Europe, et on va y venir, contre certaines institutions, qui peuvent être vues comme positives ou négatives, on va le discuter. Mais l'Europe n'est pas présentée comme un concurrent, n'est pas présentée comme un ennemi, n'est pas proprement présentée comme une colonie non plus. Il y a la trace de la relation privilégiée qui est toujours là. Ensuite, nous voulons empêcher une puissance hostile de dominer le Moyen-Orient, ses réserves de pétrole et de gaz, les points d'étranglement par lesquels elle transite tout en évitant des guerres éternelles, etc. Donc là, c'est aussi la Chine, hein. La Chine et notamment la Chine via l'Iran, grosso modo, hein. Voilà. Donc toujours la Chine. Enfin, nous voulons nous assurer que la technologie et les normes américaines, en particulier dans les domaines liés à la biotechnologie et l'informatique quantique, font progresser le monde. Donc l'idée, c'est il faut que ce soit nous qui soyons leaders là-dedans et pas la Chine. Résumé, tels sont les intérêts nationaux fondamentaux et vitaux. C'est très intéressant. Parce que ça veut dire, il faut se rendre compte de ça, que nous voulons aider nos alliés à préserver la liberté et la sécurité de l'Europe tout en restaurant la confiance en soi de la civilisation européenne et l'identité occidentale. C'est considéré comme fondamental et vital pour les États-Unis. Donc, c'est pas des mots en l'air. C'est pas un abandon de l'Europe. Ça peut être la volonté pour l'Europe d'une politique que certaines européennes ne veulent pas, c'est tout à fait audible, mais ce n'est pas en soi une attaque contre l'Europe. C'est pas tout d'un coup Donald Trump et les États-Unis qui considèrent que l'Europe est une ennemie ou ce que vous voulez. Pas du tout ça. Il y a une relation transatlantique qui est toujours là. Il n'y a aucune intention d'abandonner la relation transatlantique. Et pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que je renvoie à ce que je vous ai expliqué avant. Qu'est-ce que je vous ai expliqué avant ? Je vous ai expliqué que les États-Unis cherchaient à détacher la Russie de la Chine, que la Russie cherche à détacher les États-Unis de l'Europe. Et donc, la question qu'on peut se poser, ce à quoi sert ce document, c'est de savoir dans quelle mesure ces stratégies sont ou non contradictoires. Est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce qu'il y a un monde dans lequel les États-Unis, la Russie parvient à s'entendre avec les États-Unis sur le dos de l'Europe ? Si vous lisez ça, et on va encore le détailler ensuite, mais si vous lisez ça, la réponse, c'est non. Est-ce que les États-Unis peuvent abandonner l'Europe à la menace russe ? C'est non. Est-ce que les États-Unis peuvent abandonner l'Europe orientale à l'influence russe en faisant ce que Vladimir Poutine veut et qu'il demande depuis décembre 2021 ? Non. La nouvelle doctrine stratégique de sécurité américaine est contradictoire avec les buts de guerre de Vladimir Poutine. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un élément très important que je n'ai pas vu souligner dans les commentaires, mais c'est très important. Bien. Alors, on continue. De quels moyens dispose l'Amérique pour obtenir ? Alors, bon, ça, je passe là-dessus. Hein. On a une très bonne armée, on a un système politique qui fonctionne, on a un soft power, etc. On a fait ce que Donald Trump a fait à l'intérieur pour redonner la liberté économique aux citoyens, etc. Réduction d'impôts historiques. Moi, je continue de penser, et d'ailleurs Donald Trump l'a indiqué récemment, que il va y avoir des réductions d'impôts qui vont être mises en place à hauteur de ce que les tarifs rapportent à l'économie, à l'État américain. Et donc ça, c'est ce que j'évoquais, dont je parlais dans El César. D'ailleurs, je rappelle qu'un très beau moyen de soutenir la chaîne, comme nous approchons Noël, c'est d'offrir les livres aux gens. Alors là, j'ai pas d'El César à vous montrer, je crois, mais vous savez à quoi il ressemble. Bref, donc on passe sur les objectifs, ça on connaît. Alors, on arrive à la stratégie. Les principes. Ça, c'est intéressant parce que j'ai bien aimé cette formule. La politique étrangère du président Trump est pragmatique sans être pragmatiste, réalisable sans être réaliste, fondée sur des principes sans être idéaliste, musclée sans être belliciste et modérée sans être pacifiste. Elle ne repose pas sur une idéologie politique traditionnelle. Voilà. J'ai trouvé la formule pas mal, parce que ça répond à beaucoup d'objections ou d'attaques qui sont faites à l'égard de la politique de Trump. Alors, on considère que ça y répond bien ou pas, mais j'ai trouvé que la formule était bien, bien foutue. Donc, alors là, là, vous avez un paragraphe d'autocongratulation de Donald Trump. Un deuxième qui explique pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un monde à feu à sang parce que c'est mauvais pour les affaires. Vous avez la volonté de redéfinir l'intérêt national. Bon, ça, c'est un petit peu redite par rapport à ce qui a été expliqué au début. L'appel au père fondateur pour dire non-interventionnisme à l'extérieur dans la mesure du possible. Vous avez cette mise en place, ce truc que j'ai trouvé intéressant, c'est le réalisme flexible. La politique américaine sera réaliste quant à ce qu'il est possible et souhaitable de rechercher dans ses relations. Et alors vous allez voir un truc intéressant là. Là, il y a quelque chose d'intéressant qui est un petit peu paradoxal et opposé. Nous recherchons de bonnes relations et des relations commerciales pacifiques avec les nations du monde sans leur imposer des changements démocratiques ou sociaux qui diffèrent largement de leur tradition et de leur histoire. Nous reconnaissons et affirmons qu'il n'y a rien d'incohérent ou d'hypocrite à agir selon une telle évaluation réaliste ou à maintenir de bonnes relations avec des pays dont les systèmes de gouvernement et de société sont différents des nôtres. Et là, vous avez le truc, même si nous encourageons nos amis partageant les mêmes idées à défendre les normes communes, ce qui sert nos intérêts. Alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'en fait, tout ceci s'applique à tout le monde sauf à l'Europe. Et à l'Europe, je l'ai noté, vous avez un petit peu plus loin ceci qui va être dit. Les États-Unis plaideront avec force pour qu'ils soient respectés dans leur lettre et leur esprit, c'est-à-dire les principes de liberté d'expression, etc. Nous nous opposerons aux restrictions antidémocratiques imposées par les élites aux libertés fondamentales en Europe, dans l'anglosphère et dans le reste du monde démocratique, en particulier parmi nos alliés. C'est-à-dire qu'en gros, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est on se réserve le droit de s'entendre sans demander à des gens, avec des gens et de faire des affaires avec eux sans leur demander d'être démocratique. Par contre, les gens qui sont traditionnellement démocratiques et qui sont, font traditionnellement partie de l'Occident, voilà, eux, ils ont intérêt à le rester. Voilà, c'est ça. Ou à le rester selon la façon dont on pense qu'on le reste. Donc vous avez une petite contradiction là-dessus, mais qui est une contradiction, comme vous le voyez, qui est avouée, puisque c'est même si nous encourageons nos amis partenaires, en fait c'est pas si nous encourageons, c'est on essaiera de leur imposer de le maintenir. Hein. Alors vous avez cette idée qui va faire beaucoup plaisir, et à mon avis qui sera très très trop reprise par un certain nombre de souverainistes, qui veut que l'unité politique fondamentale du monde est et restera l'État-nation. Alors c'est une idée avec laquelle je suis fondamentalement d'accord sur le principe, puisque l'État-nation, normalement, l'État-nation achevé surtout, l'État, c'est un peu l'expression juridique de la liberté individuelle de ce qu'on appelle la nation. C'est un peu le miroir, si vous voulez, vous passez de l'individu à la nation, et bien vous passez du droit de propriété à l'État et à tous ses attributs, hein, de la personnalité juridique. Avec l'idée... Alors ça c'est intéressant, le monde fonctionne mieux lorsque les nations donnent la priorité à leurs intérêts. Les États-Unis feront passer leurs propres intérêts en premier lieu et dans leurs relations avec les autres nations les encourageront à faire de même. Il y a une espèce de côté de le retour de l'ordre westphalien. Ce qui est amusant c'est que dans l'histoire française notamment, le système westphalien, c'est contemporain de l'absolutisme en fait. Donc le fait que l'évolution absolutiste des États-Unis, il y ait cette espèce de retour avec le discours westphalien, l'absolutisme c'est aussi la première étape de la naissance de la nation véritablement, c'est dans l'absolutisme que la nation achève de se construire avant de basculer ensuite dans autre chose avec la révolution nationale. Donc cet appel à la souveraineté c'est important. Maintenant il faut se rendre compte d'une autre chose, c'est que ça amène, et on le verra quand on parle de l'Europe, ça amène à s'intéresser surtout aux États-nations telles qu'ils sont constitués, pas ceux forcément qui sont en train de se constituer. Donc ça empêche de voir l'Europe, à mon sens, comme ce qu'elle est. Et ça amène les États-Unis à considérer que un certain nombre d'institutions internationales, notamment, ils mettent à ce rang-là l'Union européenne, est mauvaise pour les États-nations. Et ça peut être dangereux parce que l'Union européenne a un intérêt malgré tout pour un certain État-nation européen. Je continue de le penser structurellement. Hein. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi malgré tout un intérêt égoïste des États-Unis à appeler à la structure de base étant l'État-nation en Europe. Pourquoi ? Parce que dans leur rapport avec l'Europe, ça met de manière bilatérale les États-Unis en rapport systématiquement avec des nations qui sont de taille d'un ordre de grandeur inférieur à celle des États-Unis. Et donc ça leur permet d'imposer un certain nombre de choses éventuellement. C'est le même rapport d'ailleurs que Vladimir Poutine essaie d'avoir, c'est pour ça qu'il n'aime pas l'Union Européenne, il essaie d'avoir des rapports bilatéraux. Parce que comme il est plus gros, il se dit que c'est plus avantageux pour lui. Mais c'est pareil pour les États-Unis. Donc il y a un intérêt purement égoïste américain dans ce qui est présenté comme une défense quand ils disent « le monde fonctionne mieux lorsque les nations donnent priorité à leurs intérêts, les États-Unis feront passer leurs propres intérêts en premier et dans leurs relations avec les autres nations les encourageront à faire de même ». En réalité, en soi, lutter contre la structure de l'Union européenne, qui est le seul véhicule possible d'une éventuelle Europe puissance, hein, au nom de l'intérêt national, en réalité, c'est contradictoire parce que il est dans l'intérêt national de la plupart des pays d'Europe d'être ligués à l'intérieur d'une entité qui leur permet de parler d'égal à égal, pour autant que possible, avec les États-Unis. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont gênantes malgré tout quand on est européen. Même si vous le savez, j'en parle souvent, je ne suis pas un fan de l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. Je critique énormément, j'ai même fait un bouquin dessus, la façon dont elle fonctionne. Mais c'est aussi parce que historiquement, elle n'est pas assez mature. Et je pense qu'elle est au bord de la révolution nationale, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'elle deviendra démocratique, mais elle deviendrait démocratique en tant qu'Europe. Si on revient à un système démocratique à l'échelle d'État, la vassalisation ne fera que s'accroître. Et c'est peut-être le sens de l'histoire, je ne sais pas. Encore une fois, je renvoie à la grande émission que j'avais faite sur la comparaison avec ce qu'avaient subi les Grecs avec Rome et la question de savoir dans quelle mesure on était condamné à subir la même chose. rappelle qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de penser qu'on a l'espoir d'espérer autre chose. Mais si on retourne vers une division comme ça, c'est peu probable. Voilà. Mais je vais y revenir après quand on parlera de l'Europe. Bon, après, il y a des questions sur la souveraineté. Et là, tac, à nouveau, faut que votre regard soit exercé. On reparle de la Chine. Équilibre des pouvoirs. Les États-Unis ne peuvent permettre à aucune nation de devenir si dominante qu'elle puisse menacer nos intérêts. Ça, c'est un vieille idée sous-jacente de la stratégie américaine. Il ne faut pas avoir de rival. Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires pour maintenir l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial et régional afin d'empêcher l'émergence d'adversaires dominants. Il est évident qu'il n'est question ici que de la Chine, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a personne d'autre qui est à ce niveau-là. Peut-être que dans 20 ans, l'Inde pourrait correspondre, le Brésil, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que la Chine. Et donc, il est question, encore une fois, de Chine. Tout comme les États-Unis rejettent le concept funeste de domination mondiale pour eux-mêmes, alors ils rejettent le concept de domination mondiale, mais enfin ils veulent quand même dominer la totalité de l'hémisphère occidental, si possible que l'Europe soit alliée, vous allez voir que l'Asie aussi, et puis il y a d'autres choses mentionnées sur le fait que, avec leurs alliés, ils représentent plus de la moitié de l'économie mondiale, donc voilà, on le rejette, mais bon, on le fait quand même, ça reste quand même l'idée fondamentale. Hein. On ne tourne pas tellement le dos en fait avec l'Amérique impériale. Nous devons empêcher la domination mondiale et dans certains cas même régionale d'autres pays. Et ça c'est intéressant parce que ça s'applique non seulement à la Chine, ça s'applique aussi à la Russie et à l'Iran. Et vous verrez plus tard qu'en gros ils considèrent que l'Iran, ça y est, ils ont déjà réglé la question. Mais il reste la Russie, qu'il faut empêcher de devenir aussi... d'étendre une domination régionale, ce qui est contraire à ce que cherche Vladimir Poutine, encore une fois. Mais si possible, sans guerre, hein, bien sûr. Cela signifie pas gaspiller du sang et des richesses pour réduire l'influence de toutes les grandes et moyennes puissances mondiales. Parce qu'en gros, l'influence démesurée des nations plus grandes, plus riches, c'est une vérité intemporelle des relations internationales. Et donc, parfois, il faut travailler avec des gens pour les abaisser. Donc, ça, on se réserve toujours le droit de discuter avec eux, malgré tout. Donc ensuite, vous avez le soutien aux travailleurs américains. Bon, ça, c'est très mentionné. C'est politique déjà pour des raisons de politique intérieure. Hein. C'est l'idée de rendre l'empire aux Américains, finalement. Et puis, ça nourrit le truc. Ensuite, des alliances militaires aux relations commerciales et au-delà. Les États-Unis insisteront pour être traités équitablement par les autres pays. Nous ne pouvons plus nous perdre. Le parasitisme, les déséquilibres commerciaux, les pratiques économiques prédatrices, etc. Alors ça, bien sûr, ça concerne également l'Europe. Et sur la question de l'Alliance, hein. En particulier, nous attendons que nos alliés qu'ils consacrent une part beaucoup plus importante de leur produit intérieur brut à leur propre défense afin de commencer à compenser les énormes déséquilibres accumulés, etc. Je vous l'avais redit au début. Compétences et mérites, alors ça c'est toujours l'idée qu'on en finit avec le wokisme à domicile sur le mérite et que c'est le mérite qui a fait le succès américain. Donc deuxième priorité, l'ère des migrations de masse est révolue. Alors ça c'est important dans la mention avec l'idée que au cours de l'histoire les nations souveraines ont interdit la migration incontrôlée, n'offraient la citoyenneté qu'à de rares étrangers, etc. Donc c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai aussi pour l'Occident. L'idée c'est d'étendre ça à l'Europe et on le verra plus tard. L'expérience de l'Occident au cours des dernières décennies confirme cette sagesse immuable. En gros c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que le fait que ça n'ait pas été fait, ça a été la catastrophe. Ensuite, vous avez protection des droits et libertés fondamentales. Donc, en gros, les droits et libertés fondamentaux seront maintenus. Et c'est ici qu'il y a le passage que je vous ai cité avant, donc j'y reviens pas trop, sur le fait qu'ils estiment que ça justifie encore leur ingérence dans la politique européenne. Petite référence à Atlas, c'est marrant. L'époque où les États-Unis soutenaient eux seuls l'ordre mondial comme Atlas est révolu. Explique qu'ils comptent à ce que les autres, qui sont des nations riches et sophistiquées, prennent leur part. Hein, donc ça, on le sait, ça fait partie du discours important. Et... Alors, la recherche d'accords de paix, réaligner les pays sur nos intérêts, ça c'était clair. Je ne sais plus si c'est là que j'avais pris une note où il y a un moment où ils disent. Non, c'est là, je t'en serai au pire, je reprendrai mes notes à la fin pour voir si j'oublie quelque chose. Donc, la sécurité économique, l'équilibre commercial, ça vous savez ce que ça veut dire. La sécurisation en chaîne d'approvisionnement des matériaux essentiels, bim, alors là on revient à nouveau, Chine. Il se réfère même à Hamilton, qui disait que les États-Unis ne doivent jamais défendre d'une puissance extérieure pour les composants essentiels, des matières premières ou des pièces détachées, etc. Donc là, c'est en gros, il faut des terres rares et il faut aller les chercher notamment. La réindustrialisation, ça c'est la volonté de réindustrialiser, on sait. Relancer notre base industrielle de défense. La domination énergétique, notamment pour l'IA. Voilà. Et donc ensuite, on arrive aux régions. Alors les régions, c'est les régions du monde qui sont découpées. Donc vous allez voir, le gros, c'est l'hémisphère occidental. Ensuite, il y a un peu l'Asie. Il y a l'Europe. Il y a le Moyen-Orient, il y a l'Afrique. Mais vous voyez que, vous verrez que le Moyen-Orient-Afrique, c'est vraiment zappé très vite. L'essentiel, c'est d'abord. Il doit y avoir la moitié, c'est l'hémisphère occidental, le fameux corollaire Trump à la doctrine Monroe, et ensuite c'est l'Asie, l'Europe, et puis le reste est expédié à la fin. Et le truc dit lui-même que il faut établir des priorités, puisque reconnaître que tout n'a pas la même importance pour tout le monde. Ça fait très bon sens, souvent, la façon dont c'est rédigé. On sent que Donald Trump y a participé. Donc là. Premier truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais passer un peu plus vite là, mais c'est ce que je vous disais à propos de l'hémisphère occidental. La première étape, en fait, c'est on reprend possession de notre truc. Et alors là, c'est l'occasion de vous dire en gros comment je perçois la synthèse, grosso modo, de ce texte. C'est étape 1, on reprend l'hémisphère occidental. En deuxième rideau, il faut affirmer notre défense sur ce qu'ils appellent la première ligne deal, c'est-à-dire qu'en fait c'est le containment de la Chine, c'est-à-dire en gros il faut contenir la Chine. Et en trois, il faut s'assurer que l'Europe reste un allié fiable de l'autre côté. Et donc en gros, ça veut dire contenir la Chine d'un côté, tenir, c'est l'île monde hein, de Mackinder. C'est les deux piliers, c'est les deux côtés. Hein. C'est un mouvement de pinces, comme je vous ai dit pour la reprise de l'Amérique du Sud. C'est un truc comme ça. Il faut s'assurer que l'Europe tienne bon sans qu'on ait à y mettre d'argent. Et donc, en fait, elle se débrouille toute seule à tenir bon. Et il faut tenir aussi l'Asie. Donc, en fait, c'est pas du tout un abandon, un recul, ce que vous voulez. Hein. En gros, c'est tout ce qu'on a actuellement, il faut le tenir. Comment on fait pour le tenir? C'est que d'abord, on remet de l'ordre dans le secteur, parce que la Chine, vous allez le voir, hein, c'est en filigrane, encore une fois, c'est pas affirmé, mais c'est transparent si vous êtes de bonne foi. La Chine a pris pied bien trop fort sur le continent américain. Grosso modo, il faut expulser la Chine, et ensuite on la contiendra de son côté. Voilà. Et ensuite on s'occupe du côté atlantique. Alors. Donc, vous avez cette idée qu'après des années de négligence, les États-Unis réaffirmeront et appliqueront la doctrine Monroe. Nous empêcherons les concurrents non hémisphériques, ça c'est intéressant, les concurrents non hémisphériques, c'est-à-dire ceux qui viennent naturellement de l'extérieur de l'hémisphère, hein. Concurrents non hémisphériques, de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes ou de posséder ou contrôler les actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère. C'est pour ça que ça commencera par aller taper sur le Venezuela pour donner le ton. Probablement. Notre objectif pour l'hémisphère occidental peuvent se résumer ainsi, recruter et s'étendre. Alors là, vous allez voir, c'est intéressant. Nous recruterons nos amis de longue date dans l'hémisphère afin de contrôler l'immigration, mettre fin au trafic de drogue et renforcer la stabilité sur terre et sur mer. Nous nous étendrons en cultivant et en renforçant de nouveaux partenariats tout en renforçant l'attrait de notre propre nation en tant que partenaire économique et sécuritaire de choix dans l'hémisphère. Alors, le recrutement devrait se concentrer sur les champions régionaux. Donc, en gros, il s'agit d'avoir des alliés qui tiendront leur région. Et donc, on peut penser que l'Argentine, on est déjà sur quelque chose comme ça. Les États-Unis doivent reconsidérer leur présence militaire dans l'hémisphère occidental. Quatre mesures évidentes. Réajustement de la présence militaire mondiale. Donc, en gros, c'est on va rapatrier un certain nombre de troupes, notamment probablement qui viendront d'Europe, pour tenir le continent américain. Une présence plus appropriée de la garde côtière et de la marine pour contrôler les voies maritimes. Donc il s'agit là, en gros, c'est on va contrôler tout l'espace maritime tout autour des Amériques. Et avec comme idée, bien sûr, on va en foutre dehors tous les essaims de navires de pêche chinois qu'on voit arriver au large du Pérou, etc. Vous avez peut-être vu ces images récemment, c'est assez impressionnant. Tout d'un coup, vous avez comme un banc de poissons comme ça qui arrive. Ce sont des navires de pêche chinois qui viennent s'installer partout. Et donc, avec l'idée de garde côtière, c'est notamment ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on foutra les Chinois dehors. Hein. Déploiement ciblé pour sécuriser la frontière et vaincre les cartels. Et y compris le recours à la force létale, ça c'est le fait d'aller buter les gens en mer des Caraïbes, hein, c'est ce qu'ils font depuis quelques semaines, les Américains. Enfin, l'établissement ou l'élargissement de l'archer de l'accès à des endroits stratégiquement importants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déployer des troupes à des endroits où elles n'étaient pas. Donc probablement la mise en place de bases américaines en Amérique du Sud dans divers endroits et la tenue de points stratégiques. Donc c'est une projection. Hein. Alors, les États-Unis donneront la priorité à la diplomatie commerciale pour renforcer leur propre économie, etc. Donc l'idée, c'est toujours d'aller acheter l'influence. Et alors là, vous voyez encore, les liens créés entre les États-Unis et nos partenaires profiteront aux deux parties tout en rendant plus difficile pour les concurrents non hémisphériques d'accroître leur influence dans la région. Là, on parle encore de la Chine. C'est la Chine, ça. Principalement, concurrents non hémisphériques qui sont allés prendre des marchés. Vous allez voir, ils en reparlent après, avec l'idée que... vous allez voir, ça vient bientôt. Alors ensuite, il y a s'étendre. Alors que nous approfondissons nos partenariats avec les pays avec lesquels les États-Unis entretiennent actuellement les relations solides, nous devons chercher à élargir notre réseau dans la région. Que les autres nations nous considèrent comme leurs partenaires de premier choix. Et nous les dissuaderons, par divers moyens, de collaborer avec d'autres. Donc là, vous comprenez. C'est-à-dire que vous allez avoir carottes et bâtons pour pousser les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord aussi. Hein. C'est-à-dire que ce soit le Canada, d'ailleurs, puisque la Chine a aussi fait percer le Canada, ou le Mexique, là aussi, il y aura des interventions. L'hémisphère occidental recèle de nombreuses ressources stratégiques que les États-Unis devraient exploiter en partenariat avec leurs alliés régionaux afin d'accroître la prospérité. Alors là, hémisphère occidental, vous avez le Groenland dedans. Hein. Important. Et d'ailleurs, dans les déploiements de troupes dont je parlais au-dessus, c'est aussi ça, parce qu'on a tendance à penser à Amérique du Sud, mais effectivement, il y a aussi au nord des États-Unis. Hein. Le National Security Council va immédiatement lancer un processus interinstitutionnel solide afin de charger les agences, avec le soutien de la branche analytique de l'Intelligence Community, d'identifier les points stratégiques et les ressources que l'hémisphère occidental en vue de leur protection et de leur développement conjoint avec les partenaires régionaux. En fait, ils vont mettre un grand plan pour savoir sur quoi il faut qu'ils mettent la main dans cet hémisphère occidental. Et ça accélérera si on est en cas de guerre, parce que ça voudra dire que vous aurez des déploiements de troupes américaines. Si la guerre commence demain, éclate demain avec la Chine et ou la Russie, vous pouvez être sûr que tout d'un coup, une des priorités, ça va être le déploiement de l'armée américaine dans un certain nombre de pays d'Amérique, du reste des Amériques en fait, hein, tout simplement. Et donc vous aurez une présence militaire américaine accrue notamment au Canada, au Groenland, et donc il est très vraisemblable qu'en fait l'annexion du Canada se fasse à l'occasion du conflit. Et du Groenland aussi d'ailleurs, puisqu'il l'avait déjà occupé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il suffirait de recommencer, et puis voilà. Des concurrents de l'autre hémisphère ont fait des percées importantes dans le nôtre. Chine, hein, à la fois pour nous désavantager économiquement, mais à présent d'une manière qui pourrait nous nuire stratégiquement à l'avenir. Permettre ces incursions sans riposte sérieuse est une autre grande erreur stratégique américaine de ces dernières décennies. Les États-Unis doivent occuper une position prééminente dans l'hémisphère occidental pour garantir notre sécurité et notre prospérité. Les termes de nos alliances et les conditions auxquelles nous fournissons toute forme d'aide doivent dépendre de la réduction d'influence hostile extérieure, qu'il s'agisse de contrôle des installations militaires, des ports d'infrastructures clés ou de l'achat d'actifs stratégiques au sens large. Ça veut dire qu'on aidera et on sera allié avec les pays qui, en contrepartie, expulseront, renonceront aux liens avec la Chine. C'est ça, hein. Certaines influences étrangères seront difficiles à inverser, compte tenu des alignements politiques entre certains gouvernements latino-américains et certains acteurs étrangers. Cependant, de nombreux gouvernements ne sont pas idéologiquement alignés sur les puissances étrangères, mais sont plutôt attirés par la possibilité de faire des affaires avec elles, pour d'autres raisons, notamment les faibles coûts et les obstacles réglementaires moins nombreux. La Chine. Les États-Unis ont réussi à réduire l'influence extérieure dans l'hémisphère occidental en démontrant de manière précise combien de coûts cachés, en matière d'espionnage, cybersécurité, piège de la dette et autres, là c'est Chine, sont inhérents à l'étrangère prétendument peu coûteuse. Chine, hein, parce que c'est ça. Là. Nous devons accélérer ces efforts, notamment en utilisant l'influence des États-Unis dans le domaine financier et technologique pour inciter les pays à rejeter cette aide. J'espère que c'est bien clair, cette idée que c'est Chine, hein, ça se voit quand même. Hein. Bon. Donc si vous avez des commentateurs qui vous disent « Oui, la Chine est moins présentée comme un ennemi dans cette stratégie nationale de sécurité », j'ai envie de dire « Vous ne savez pas lire, monsieur. Il est question de la Chine en permanence. » Dans l'hémisphère occidental et partout dans le monde, les États-Unis devraient clairement faire comprendre que les biens, services et technologies américains sont un bien meilleur achat à long terme car ils sont de meilleure qualité et ne sont pas assortis des mêmes conditions que d'autres pays. On travaille mieux que la Chine. C'est mieux d'être allié avec les États-Unis qu'être allié avec la Chine. C'est ça que ça veut dire. Cela dit, nous reformerons notre propre système afin d'accélérer les autorisations et les concessions de licences, là encore dans le but de devenir un partenaire de premier choix. Tous les pays doivent choisir s'ils veulent vivre dans un monde dirigé par les États-Unis, composé de pays souverains et d'économies libres, ou dans un monde parallèle où ils sont influencés par des pays situés à l'autre bout du globe. C'est-à-dire la Chine, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je trouve ça extraordinaire parce que, en fait, vous avez l'offre politique américaine, là. L'histoire des États-nations, tout ça et tout, vous voyez qu'en fait, il s'agit de dire aux gens, moi je vous protégerai tel que vous êtes. Je n'aimerais pas vous emmerder, je n'aimerais pas vous obliger à décider qu'il faut voter pour ci, qu'il faut voter pour mi, etc. Ça, j'ai arrêté de le faire, idéologiquement. Mais pourquoi j'arrête de le faire? J'arrête de le faire non seulement parce que l'Amérique est dans un nouveau cap, dans une nouvelle étape de sa construction historique qui fait qu'elle est moins axée sur ce genre de trucs, mais pourquoi elle arrête de le faire aussi? Elle arrête de le faire parce que l'idée, c'est que la Chine, elle, le fera. La Chine, elle arrive, c'est le Parti communiste chinois, voilà, c'est une certaine vision, etc. Donc, moi, je vais faire une offre où je garantis la sécurité et l'indépendance des gens. Moi, je ne viendrai pas faire de l'ingérence, je ne viendrai pas faire la police de la pensée chez vous, on fera du business. Voilà. Donc, ça sera plus sûr que la Chine. Donc, l'idée, en fait, c'est de recalibrer l'offre face au concurrent à l'hégémonie mondiale. Et le concurrent à l'hégémonie mondiale, c'est qui? C'est la Chine. Alors, tous les responsables américains travaillant dans ou sur la région doivent être parfaitement informés de l'ensemble des influences extérieures néfastes, tout en exerçant des pressions et en offrant des incitations aux pays partenaires afin de protéger notre hémisphère. Donc là, c'est comment former nos gens pour travailler contre la Chine. Pour protéger efficacement notre hémisphère, il faut également une collaboration plus étroite entre le gouvernement américain et le secteur privé américain, etc. Bon, alors là, c'est sur le travail avec les stratégies d'acquisition, travailler avec le secteur privé, comment utiliser le secteur privé comme un bras armé, etc. Je passe là-dessus, parce que ça, c'est plus le comment que le quoi, et le comment est moins intéressant. C'est l'économie, en gros. Là, on passe à l'Asie. Alors, vous noterez qu'on a déjà beaucoup parlé de la Chine, alors qu'on n'était pas encore en Asie. Maintenant, nous sommes en Asie. Et alors là, ça part très fort. En Asie, le président Trump a, à lui seul, renversé plus de 3 décennies d'hypothèses erronées des États-Unis sur la Chine. Croire qu'en ouvrant nos marchés à la Chine, en encourageant les entreprises américaines en Chine, à investir en Chine, pardon, et en externalisant notre production vers la Chine, nous faciliterions l'entrée de la Chine dans ce qu'on appelle l'ordre international fondé sur des règles. Une telle chose ne s'est pas produite. La Chine est devenue riche et puissante. Elle a utilisé ses 2 traits à son avantage. Les élites américaines, au cours de 4 administrations successives des 2 partis politiques, ont soit volontairement facilité la stratégie de la Chine, soit refusé de voir la réalité. Donc là, on n'a pas parlé de la Chine explicitement pendant toute la partie précédente, mais là, vous voyez qu'on arrive sur la Chine. Et le fait est que vous n'avez aucun autre pays naturel. Alors, j'ai envie de dire, c'est naturel. C'est pas besoin de comploter, besoin d'être grand clair pour savoir que le grand concurrent, le rival des États-Unis, c'est la Chine. Bon, c'est juste amusant de les voir ne pas en parler pendant un moment, mais et d'en parler qu'au moment où ils parlent de l'Asie. La région Indo-Pacifique représente déjà près de la moitié du PIB mondial en termes de pouvoir d'achat et un tiers en termes de PIB nominal. Cette part est appelée à augmenter, etc. Donc ça, c'est, on est un peu sur la suite la suite du pivot vers l'Asie, avec l'idée que c'est là-bas que ça se passe. Hein. L'idée que les États-Unis disposent de l'économie et l'armée les plus puissantes au monde, une innovation de pointe, etc., pour séduire et marcher dans cette région. Alors, ensuite, il est question du déséquilibre depuis la réouverture des relations entre les économies des deux pays, de la Chine et des États-Unis. Que la Chine, elle s'est adaptée au changement de politique tarifaire de Donald Trump en 2017, en renforçant son emprise sur les chaînes d'approvisionnement, et en particulier sur les pays à faibles et moyens revenus, ça c'est intéressant. Qui constitueront l'un des principaux champs de bataille économique des prochaines décennies. Donc, en gros, c'est l'idée, la Chine a acheté les pauvres, il faut qu'on aille les concurrencer là-dessus. Les exportations chinoises vers les pays à faible revenu ont doublé entre 2020 et 2024. Les États-Unis importent des produits chinois directement. Bon, ça c'est un petit, comment dire, c'est un point qui est fait sur la situation de l'évolution américaine. Avec l'idée qu'il faudra rééquilibrer désormais, si les États-Unis restent sur la voie de la croissance et parviennent à se maintenir tout en entretenant des relations économiques véritablement mutuellement avantageuses avec Pékin, notre économie devrait passer de 30 000 milliards de dollars en 2025 à 40 000 milliards de dollars dans les années 2030, ce qui placerait notre pays dans une position enviable pour conserver son statut de première économie mondiale. Ensuite, il y a l'idée de dissuader pour prévenir toute guerre dans la région Indo-Pacifique. Pour y parvenir, plusieurs éléments essentiels. Les États-Unis doivent protéger et défendre notre économie. Bon, ça, on l'a déjà dit plein de fois. Mettre fin aux subventions présastrites et aux stratégies industrielles dirigées par l'État, la Chine. Pratiques commerciales et déloyales, la Chine. Destruction d'emplois et désindustrialisation, la Chine. Vol à grande échelle de propriété intellectuelle et espionnage industriel, la Chine. Menace contre une chaîne d'approvisionnement, la Chine, exportation des précurseurs du fentanyl, ça c'est la Chine, et la propagande des opérations d'influence, c'est toujours la Chine. Donc ça, vous voyez, alors là, c'est les deux doivent protéger des... Donc là, on ne dit même pas que c'est la Chine, hein. On a glissé en parlant, avant on parlait de la Chine, mais au fond, tout ça, pour ne pas les accuser directement, mais tout ça, c'est évidemment toujours la Chine. Hein. Deuxièmement, les États-Unis doivent travailler avec leurs alliés et partenaires signataires de traités, et alors là, c'est l'Empire américain, hein. Qui ensemble ajoutent 35 000 milliards de dollars supplémentaires à la puissance économique de notre économie nationale de 30 000 milliards de dollars, représentant ensemble plus de la moitié de l'économie mondiale. Donc là, vous avez les États-Unis qui disent l'empire américain, notre empire, pèse 65 000 milliards de dollars et doit contrer les pratiques économiques de la Chine, etc. Et ensuite, vous avez bien sûr le contrepoids, ça c'est la stratégie du contrepoids, avec l'Inde, et donc ça parle de l'Inde, associé dans le quad avec l'Australie et le Japon et les États-Unis. Et là, il s'agit quoi ? Il s'agit d'encercler la Chine, tout simplement. Hein. Il s'agit de faire du containment de la Chine avec, tac, vous regardez bien, avec les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, voilà, qui sont les trois piliers du truc. Vous avez quelques petits qui peuvent s'y rajouter, la Corée du Sud, les Philippines, le Vietnam, etc. Mais l'idée du quad, c'est ça. C'est les puissances en fait en arrière-plan qui doivent éviter que les détroits et que la mer de Chine méridionale passent aux mains de la Chine. Et bien sûr, en outre, nous efforcerons également d'aligner les actions de nos alliés partenaires sur notre intérêt commun à empêcher la domination d'une seule nation concurrente. Donc, en fait, c'est explicite, nous sommes là pour contenir la Chine et pour empêcher sa domination, même régionale. Alors ensuite, vous avez toujours l'idée qu'il faut investir dans la recherche pour maintenir le gap de capacité, etc. Ça sert aussi à justifier la dérégulation à l'intérieur des États-Unis. vous avez les négociations commerciales encouragées avec l'Europe, le Japon. Bon, là, tout ça, c'est la politique tarifaire hein, sur laquelle j'ai déjà parlé pendant très longtemps. Là, vous avez à nouveau l'offre américaine. Ce qui différencie les États-Unis du reste du monde, notre ouverture, notre transparence, notre fiabilité, notre engagement en faveur de la liberté d'innovation, notre capitalisme de libre marché continuera de faire de nous le partenaire mondial de premier choix. Donc ça, c'est toujours l'idée que on est l'alternative à la Chine et on est beaucoup plus intéressant, en disant qu'ils occupent toujours une position dominante, etc. Et vous avez tout ce truc, ce qui se rapproche de ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que les États-Unis rééditent la stratégie anti-soviétique avec la Chine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée toujours que c'est gagnable uniquement par l'économie. Hein. Nous devons présenter à nos partenaires une série d'incitations, par exemple la coopération dans le domaine des hautes technologies, des achats de la défense et l'accès à nos marchés financiers qui feront pencher la balance en notre faveur. L'idée qu'on peut les séduire plus. Hein. Donc ça, c'est la même entreprise de séduction qu'il y avait eu déjà de la part des États-Unis pendant la guerre froide. Notamment, vous avez les visites d'État du président Trump, alors à nouveau un petit peu brosse à reluire, mais aussi en disant que c'est un moyen de les rattacher à tout ça. Donc ensuite, on arrive sur dissuader les menaces militaires, avec l'idée que la prééminence économique et technologique, c'est le meilleur moyen, mais qu'il faut aussi un équilibre militaire conventionnel. Et là, vous avez forcément la question de Taïwan qui vient, donc la question de Taïwan c'est toujours la Chine. Hein. Donc en fait, vous voyez l'Asie c'est comment contenir la Chine, hein, en fait c'est ça le truc. Donc je rappelle, hémisphère occidental, je rappelle, hein, comment expulser la Chine, Asie, comment contenir la Chine, voilà, c'est ça les trucs. Donc un équilibre conventionnel militaire reste un élément essentiel de concurrence stratégique. Et donc Taïwan. Alors on est sur Taïwan. Donc parce qu'elle produit des semi-conducteurs, mais surtout parce que Taïwan offre un accès direct à la deuxième chaîne d'îles et divise l'Asie du nord-est et du sud-est en deux théâtres distincts. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que Taïwan, c'est un verrou stratégique entre le nord, Corée du Sud, Japon, etc., et le Sud, Philippines, Vietnam, etc. Et que grosso modo, si Taïwan tombe, c'est une sorte de percée chinoise qui permet d'aller vers la deuxième chaîne d'îles. Hein. Deuxième chaîne d'îles, c'est Guam, les Mariannes, etc. Donc je rappelle, la stratégie américaine, c'est deux chaînes d'îles. Vous avez celle-ci qui passe par le Japon, n'est-ce pas? Le Japon, Taïwan, les Philippines. Ensuite, vous avez la deuxième chaîne d'îles. La deuxième chaîne d'îles, c'est ici, c'est juste derrière le Japon, avec Guam, etc. Et ensuite, vous arrivez ici à Hawaï. Hein, et donc ça, c'est la troisième chaîne d'îles, c'est le Hawaï Midway. Hein, Midway, c'est la mi-route, en fait, entre les deux côtés. Donc c'est les trois rideaux, si vous voulez. L'idée de la stratégie, ce que souhaiterait faire la Chine, c'est expulser les États-Unis des deux premiers rideaux, et faire en sorte qu'ils soient renvoyés à Hawaï, et que donc la moitié du Pacifique soit chinoise et l'autre moitié éventuellement américaine. Pour les Américains, c'est hors de question, donc il faut maintenir ce premier rideau. Étant donné qu'un tiers du trafic maritime mondial passe chaque année par la mer de Chine méridionale, cela a des implications majeures pour l'économie américaine. Donc prioritaire, ça c'est très important, prioritaire de dissuader tout conflit autour de Taïwan, idéalement en préservant la supériorité militaire. Nous maintiendrons notre changement politique déclaratoire. Les États-Unis ne soutiennent aucun changement unilatéral du statu quo dans le détroit de Taïwan, ce qui signifie que aucune attaque de la Chine sur Taïwan ne sera autorisée et ne sera laissée faire. Là, ça vous ramène à la problématique actuelle, qui est que cette attaque paraît de plus en plus imminente côté chinois, hein, peut-être dans l'année qui vient, en 2026, et réaffirme le fait qu'ils ne permettront pas ça. Nous construirons une armée capable de repousser toute agression d'où qu'elle survienne dans la première chaîne d'îles. Donc, la première chaîne d'îles, c'est ça, encore une fois, c'est Japon, tout ça, je viens de vous le montrer. Mais l'armée américaine ne peut, ne doit pas avoir à le faire seule, et donc vous avez l'idée que la diplomatie doit pousser ensuite la Corée du Sud et le Japon à s'armer plus fortement, etc. Voilà. Le Japon et que la Corée du Sud prennent une plus grande part de la responsabilité, etc. Donc, posture vigilante dans la région Indo-Pacifique. Renouveler la base industrielle de défense, voilà, tout ça c'est pour lutter contre, encore une fois, la Chine. Ensuite, on arrive enfin à l'Europe. Alors, l'Europe. Je sais pas si je vais tout vous lire. J'ai pas envie de tout lire. Parce que je fatigue un peu. Je perds de la salive. Mais en fait, vous avez surtout que ce qui me gêne, c'est que vous avez dû beaucoup entendre parler déjà de ce qui est dit là-dedans à propos de la Chine, de l'Europe. Il y a un gars qui dit Philippe Fabrilli à haute voix, c'est insupportable, j'arrête de l'écouter. Ben oui, barre-toi. Si je lis pas à haute voix, si je lis dans ma tête, l'émission va être tout de suite moins intéressante, Coco. Les responsables américains ont pris l'habitude de. Bon, alors là, je vous le passe, hein, mais il y a l'idée que, en fait, l'Europe est en plein déclin, en déclin économique et déclin civilisationnel, notamment à cause de la crise démographique et des politiques migratoires, en gros, hein, qui transforment le continent et créent des conflits. Et l'idée qu'il y a la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique. L'effondrement des taux de natalité, mais ça c'est des populations, et la perte des identités nationales et de la confiance en soi. Alors le problème, c'est que je pense que dans l'interprétation américaine, même si effectivement sur les problèmes de migration et les problèmes démographiques, il y a certainement des soucis à régler. En revanche, il y a une erreur de lecture vraisemblablement à propos de la mise en place de l'idée européenne. Et là je reviens à ce que je disais au début. C'est-à-dire que vous avez une Europe qui est effectivement en train de se constituer, vous avez une nation européenne qui est en train de se constituer à travers un certain nombre d'idées, vous avez, on le sait maintenant, un attachement des peuples européens à l'euro, vous avez une majorité des gens qui pensent qu'il faut avoir une forme d'autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, qu'il faudra avoir une armée européenne, qu'il y a une base de puissance européenne qui fait que l'Europe devrait être une très grande puissance et qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit totalement à la remorque des États-Unis. Et en face, vous avez cette stratégie américaine qui vise à la fois à essayer de faire en sorte que ce continent européen effectivement s'autonomise, mais tout en refusant qu'il s'autonomise de manière européenne, c'est-à-dire en étant une puissance européenne, mais qu'il le fasse à travers des États-nations. Et en même temps, tout en ne parlant que de l'Europe. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que vous avez une doctrine américaine qui tente de régler la question européenne en disant qu'en gros... Ben, l'Union européenne, c'est de la connerie, qu'il faut revenir aux États-nations européens. Mais les deux seuls États-nations européens qui sont nommés, c'est la Grande-Bretagne et l'Irlande. Je crois qu'ils disent même pas Royaume-Uni, mais on va voir tout ça tout à l'heure. Mais ils ne parlent que d'Europe, l'Europe dans son ensemble. À la fois, ils parlent de l'Europe dans son ensemble et ils condamnent l'expression politique de cette Europe, ce qui est un problème, un paradoxe. Parce qu'en réalité, il faudrait souhaiter, enfin, nous comme Européens, on doit souhaiter une Europe unie et puissante, qui fonctionne, oui, comme une nation au sein d'un concert de nations mondiales. En tout cas, c'est ma position, mais surtout, je pense que c'est ce qui va arriver de toute façon. Mais de l'autre côté, vous voyez aussi, et après tout, j'en parlais aussi, alors que c'était un sujet qui était assez peu mentionné à l'époque dans la chute de l'Empire européen. Qui est que la principale hypothèque qui pèse sur la capacité de l'Europe à se constituer comme un super État-nation, c'est précisément l'intervention américaine, qui est la seule, durablement, à pouvoir empêcher que cette unité européenne se fasse. Et visiblement, vous avez, et donc vous l'avez dans cette stratégie américaine, et vous l'avez aussi quand vous voyez les déclarations ces jours derniers ça me fait rire parce que je vois le mec qui répond encore... il a de la chance si Romain n'est pas là pour le virer ce soir. L'Europe a une expression politique qui est l'Union européenne, et vous avez aujourd'hui Elon Musk qui, à la suite de cette déclaration de doctrine, commence à expliquer qu'en gros l'Europe est l'ennemi de la démocratie à l'échelle européenne et que c'est ça le problème et qu'en gros il faudrait casser l'Union européenne pour revenir aux États-nations démocratiques. Le problème c'est que les États-nations ne sont pas démocratiques en Europe, ou en tout cas les problèmes de démocratie en Europe, ça vient pas de l'Europe, ça vient pas de l'Union européenne, ça vient des États-nations eux-mêmes. Von der Leyen parle moins de contrôle des médias et des réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron. Quel est le pays d'Europe dans lequel vous subissez le plus de harcèlement de la part des autorités et dans lequel la liberté d'expression est la plus attaquée? au Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. Et depuis qu'il est sorti de l'Union européenne, vous avez ces attaques qui sont à des niveaux tels qu'elles n'existaient pas au moment où elle était, où le Royaume-Uni était à l'intérieur de l'Union européenne. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le problème, c'est pas l'Union européenne qui fait ça institutionnellement. C'est qu'il y a une tendance comme ça des élites des différents États-nations européens. Et donc, si demain l'Union européenne disparaissait, probablement que ça ne changerait rien à cette conception du pouvoir qui doit changer à l'intérieur des États-nations européens eux-mêmes. Et comme je l'ai déjà dit, moi je pense que ça va donner lieu à une révolution à l'échelle européenne, et que c'est là que disparaîtra, que normalement on devrait avoir une transition vers quelque chose de plus démocratique, à terme en tout cas, puisque normalement on passera d'abord par un certain nombre d'étapes. Mais il est probable qu'aujourd'hui le retour simplement aux États-nations changerait quoi que ce soit à ce niveau-là, hein, bien évidemment. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez toute une... Et ça, c'est quand même... Bon, c'est pour ça que... Alors, les élites... Chez nous, ça a été mal vu, et il y a toute cette série de titres que je vous ai donné en introduction qui présentent... Vous voyez ça comme une attaque contre l'Europe. C'est parce qu'en réalité, les médias et les gens au pouvoir en Europe sont ceux qui ont fait l'ordre européen tel qu'il est. Et donc forcément, eux, quand on vient de dire que l'ordre en Europe pose un problème, qu'il écrase les nations, etc., c'est l'ordre établi, c'est l'establishment qui est attaqué. Et donc c'est eux qui sont attaqués, c'est l'establishment européen qui est attaqué, c'est pas l'Europe. Tout ce passage américain, en réalité, est plein de sollicitudes envers la population européenne, l'ordre européen, la démocratie européenne, dans la lignée du discours de J.D. Vance l'année dernière. Donc, pas l'année dernière, au début de l'année, le temps passe vite. Donc je le verrai pas comme ça. Après, vous avez en plus l'idée que l'Europe ne doit pas s'affaiblir dans l'intérêt des États-Unis. C'est-à-dire qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que l'Europe soit forte. Alors pas que l'Europe soit une Europe puissante concurrente des États-Unis, et c'est là qu'est un peu la ligne de crête sur laquelle les États-Unis essaient de jouer. Mais si l'Europe est affaiblie, ils savent que si l'Europe est affaiblie, elle risque de devenir la proie du bloc eurasiatique, et donc de se faire dévorer. Et donc vous allez voir que dans ce dont il est question ici, il est question de protéger tout ça. Alors, vous avez, et de protéger l'Europe, vous avez la question de la guerre en Ukraine qui est mentionnée ici, je vais vous lire le paragraphe. La guerre en Ukraine a eu pour effet pervers d'accroître les dépendances extérieures de l'Europe, en particulier de l'Allemagne. Aujourd'hui, les entreprises chimiques allemandes construisent certaines des plus grandes usines de transformation au monde en Chine, vous voyez, il est encore question de Chine, lesquelles utilisent du gaz russe que les Allemands ne peuvent obtenir chez eux. L'administration de Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes concernant la guerre, ses dirigeants se retranchant dans des gouvernements minoritaires instables, ce qui est le cas. Encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit. Le gros problème des négociations de paix en Ukraine, c'est que les gouvernements qui refusent la paix en Ukraine, à raison selon moi, stratégiquement, cependant ne sont pas légitimes pour le faire. Parce qu'ils sont effectivement minoritaires et instables, souvent, que ce soit en Allemagne ou en France. D'ailleurs, le minorité instable, c'est notamment la France qui visait. On n'est pas nommé, mais là, pour le coup, je sais voir quand c'est Chine et je sais voir quand c'est France. Dont beaucoup bafouent les principes fondamentaux de la démocratie pour réprimer l'opposition. Là aussi, il y a à côté France. Une large majorité des Européens souhaitent la paix, mais ce désir ne se traduit pas en politique. Alors là, il y a peut-être une erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, les Européens veulent la paix, mais ne veulent pas la paix à tout prix. Comme pour les Ukrainiens, d'ailleurs. Mais voilà, donc ça inquiète les États-Unis qui veulent que l'Europe reste assez forte avec des secteurs qui restent parmi les plus solides du monde. Ils disent de l'industrie manufacturière à la technologie, etc. L'Europe abrite les institutions culturelles de premier plan et les centres de recherche scientifique de pointe, etc. Donc en fait, tout ce chapitre, il consiste à dire, et ça c'est quand même important, alors que tout le monde dit depuis un an que l'Amérique de Trump veut abandonner l'Europe, tout ce chapitre, il dit, l'Europe, c'est notre allié traditionnel. Elle reste très valable sur un certain nombre de secteurs, mais c'est vraiment désastreux ce qu'elle fait d'elle-même. Elle risque de se torpiller, c'est mauvais pour les intérêts américains, parce qu'on risque de perdre nos alliés les plus fiables sur ce flanc-là. Hein ? Parce que, également, encore une fois, hein, je reviens à cette question-là, si vous prenez les États-Unis qui maîtrisent leur hémisphère occidental, bon, une fois qu'ils ont contenu la Chine à l'Est, tout va très bien, Bon, en Afrique, d'Afrique, il n'y a aucune menace qui vient, donc il n'y a pas de problème. En revanche, en Europe, il faut que cette Europe-là soit une alliée solide des États-Unis. S'il se passe quelque chose de mal, ça peut être dangereux, notamment si jamais la Russie arrivait à faire quelque chose par là. Donc vous avez, la diplomatie américaine doit continuer à défendre la démocratie authentique, la liberté d'expression et la célébration sans complexe du caractère de l'histoire propre à chaque nation européenne. Donc ils encouragent leurs alliés politiques en Europe. Et donc là, on peut penser qu'il va y avoir une ingérence accrue encore hein, ce secteur-là. Notre objectif devrait être d'aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle. Nous aurons besoin d'une Europe forte pour nous aider à être compétitifs et pour travailler de concert avec nous pour empêcher tout adversaire de dominer l'Europe. Et là, vous avez la Russie quand même. Là, vous avez la Russie. Vous avez un peu la Chine en arrière, mais vous avez quand même la Russie. Et en tout cas, vous avez un morceau de texte qui est contraire au but de guerre de Vladimir Poutine, qui veut dominer au moins une bonne partie de l'Europe. Voilà. Et là, les États-Unis disent non. On ne laissera personne dominer l'Europe. Donc ils redisent hein, qu'ils sont assez bien, c'est la Grande-Bretagne et l'Irlande. Hein, voilà, c'est les seuls qui non, ils ont nommé l'Allemagne. J'ai dit une bêtise. Ils ont parlé de l'Allemagne aussi avant, mais juste pour parler de l'économie en fait. Le caractère de ces pays, mais au-delà du caractère sentimental, le caractère de ces pays est également important sur le plan stratégique, car nous comptons sur des alliés créatifs, compétents, confiants et démocratiques pour établir des conditions de stabilité et de sécurité. Et alors par contre l'autre chose, nous voulons travailler avec des pays alignés qui souhaitent retrouver leur grandeur d'antan. Donc ils veulent un alignement politique avec le fonctionnement des États-Unis. Alors il y a cette histoire-là, ça pose des problèmes d'interprétation. À long terme, il est plus que plausible que d'ici quelques décennies ou plus tard, certains membres de l'OTAN deviennent majoritairement non-européens. À ce titre, la question reste ouverte de savoir s'ils considéreront leur place dans le monde, leur alliance avec les États-Unis, de la même manière que ceux qui ont signé la charte de l'OTAN. Alors là-dessus, il faut être très clair, il y a une considération ethnique. Certains membres de l'OTAN deviendraient majoritairement non-européens. Je pense qu'ils ont en vue... Alors peut-être la France, si on regarde les chiffres. Plus probablement, parce que c'est plus spectaculaire là-bas, le Royaume-Uni. À mon avis, il y a vraiment cette question-là. Ils se disent le Royaume-Uni sera plus européen, quoi. C'est-à-dire blanc, simplement. Donc ça les inquiète et ils veulent revenir là-dessus. Alors, notre politique générale pour l'Europe devrait donner la priorité aux éléments suivants. Rétablir les conditions de stabilité en Europe et la stabilité stratégique avec la Russie. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez que la Russie n'est mentionnée, dans tout ce long rapport, la Russie n'est mentionnée qu'accessoirement. La Russie, c'est un petit truc qui est emmerdant en limite de l'Europe. Il faut rétablir les conditions de stabilité en Europe et la stabilité stratégique avec la Russie. La stabilité stratégique avec la Russie, c'est-à-dire qu'il faut que les choses ne bougent pas. Il ne faut pas renégocier des trucs pour avancer l'architecture de stratégie comme le demande Vladimir Poutine. Non, c'est la stabilité. On bloque, on fige. Hein, encore une fois, c'est contraire aux objectifs de Vladimir Poutine. Permettre à l'Europe de voler de ses propres ailes et de fonctionner comme un groupe de nations souveraines alignées. Alors ça, c'est quand même, vous voyez, c'est la ligne de crête qu'ils défendent. C'est-à-dire qu'ils veulent un groupe de nations souveraines, donc ils ne veulent pas une Europe souveraine, ils veulent un groupe de nations souveraines qui soit en plus aligné avec les États-Unis. Mais qui assumerait la responsabilité de sa propre défense. Et là, vous arrivez sur un truc compliqué, parce qu'il faut que les gens assument la responsabilité de leur propre défense, donc soient autonomes en matière de défense, soient un groupe aligné entre eux avec vous, mais soient pas une puissance à part. Problème. Et en plus, sans être dominé par une puissance adverse. Donc là, encore une fois, plutôt la Russie, d'après moi. Cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe, ben là, ça veut dire qu'ils vont encourager les mouvements nationalistes en Europe, hein, au moins alter-européanistes, à mon avis, parce que le retour aux nations, c'est poursuivi par plus personne, quoi, je veux dire. Par contre, derrière, vous avez quand même le côté colonial économique, ouvrir les marchés européens aux biens et services américains, garantir un traitement équitable des travailleurs et des entreprises américaines. Donc là, il s'agit de pouvoir venir... Là, pour le coup, c'est du colonialisme économique. Et c'est lié avec le truc d'avant, d'ailleurs, encore une fois. Groupe de nations souveraines, histoire qu'ils soient divisés et qu'on puisse pratiquer le colonialisme économique. Là, faut pas avoir d'illusions. Mafré, vous avez renforcé les nations saines d'Europe centrale, orientale et méridionale grâce à des liens commerciaux, des ventes d'armes, une collaboration politique et des échanges culturels et éducatifs. Europe centrale, orientale, c'est. On ne les laisse pas à Poutine. Donc mettre fin à l'expansion de l'OTAN perpétuelle, donc ça c'est a priori pas en Ukraine. Encourager l'Europe à prendre des mesures pour lutter contre la surcapacité mercantiliste, le vol technologique, le cyberespionnage et d'autres pratiques économiques hostiles. La Chine, hein, ça c'est la Chine. Encourager l'Europe à prendre des mesures contre la Chine. Donc là vous voyez, hein, on est encore une fois sur le bloc et le truc. On divise, on essaie de détacher la Russie de la Chine et on essaie de ramener l'Europe dans la lutte contre la Chine par contre. Hein. Et je vais passer très rapidement sur la fin. Vous avez au Moyen-Orient, en gros, on mettait la priorité là-dessus à cause du pétrole, sauf que le pétrole, on n'en aura plus besoin, donc ça va bien aller. En plus, pour l'Iran, on leur a tapé sur la tronche, donc c'est terminé. Le cessez-le-feu et la libération des otages en Israël, ça va permettre de tout calmer avec les Arabes, de faire la paix, etc. Pif pouf, donc en gros, voilà, ça se termine, vous voyez, ça va très vite. Donc il n'y aura plus trop de problèmes. Et en Afrique, c'est en gros en Afrique qu'on va aller chercher. En Afrique, c'est encore plus court, vous avez trois paragraphes. Voilà, tac, tac, tac. C'est en gros, on va aller chercher des. On va aller chercher des ressources et puis ça ira très bien. Voilà, donc comment le truc est expédié. Donc vous voyez à quel point le Moyen-Orient et l'Afrique s'est expédié très vite. Moyen-Orient, question considérée comme réglée. À mon avis, c'est un peu précipité, mais voilà. Il n'y a rien du tout sur la Turquie. Donc là, c'est un peu le. Si vous voulez, c'est comme moi, je maintiens que je pense qu'au sortir de la guerre, nous aurons un empire pan-turc en Asie centrale qui sera une des grandes puissances du monde d'après. Ben, visiblement, le plan n'est pas très visionnaire là-dessus. Il n'y en a pas question. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. C'est le Moyen-Orient. Afrique, bon, Afrique, c'est globalement OSEF, sauf sur les trucs qu'il y a à récupérer au Congo. Mais le reste qui est très important, c'est étape numéro 1, sécuriser l'hémisphère occidental. Étape numéro 2, contenir la Chine. Étape numéro 3, s'assurer que l'Europe se casse pas la gueule et reste une alliée fidèle. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'avenir, le maintien de l'Empire américain là où il est, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est ça l'idée, d'après moi. Et je pense que c'est clair pour tout le monde et que c'est clair pour vous. Je vais voir, parce que j'ai déjà été pas mal long, du coup, avec tout ça. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'on a comme est-ce qu'on a eu des questions dont... Alors, je passe un peu vite. Alors, attends, avant la question dont, je vais commencer par la question de la semaine dernière. Dans quelle mesure l'Europe pourra-t-elle se relever à temps de sa première défaite? Alors je suppose sa première défaite contre la Russie, ben, ça dépendra exactement de la nature et de l'ampleur de cette défaite. Je renvoie à l'émission qui est publique d'ailleurs, elle n'est pas dans la liste des vidéos réservées, l'émission sur c'est quoi le scénario du pire, je crois. La vignette, c'est venir Poutine avec des drones qui lui sortent de la tête. C'est celle-là qu'il faut aller voir. Alors, je vois qu'on a deux dons. Dominique 1554, merci pour le don. Comment faire profiter les alliés de faibles coûts? C'est absurde. Alors, la question était par rapport à quoi? Je crois que c'est à peu près au moment où je parlais des tarifs que cette question a été posée. Mais alors, je la comprends pas bien. C'est peut-être une erreur par rapport à ce qui est dit sur le fait de faire profiter les alliés de faibles coûts sur les ventes d'armes, notamment, et le tarif référentiel, les aider à les encourager par ce genre de mesures commerciales, des facilités d'accès à certaines technologies militaires et certains armements. C'était ça l'idée. Hein. Voilà, sinon je vois pas ce que ça désigne sinon. Oleyer, analyse très intéressante, merci. C'est moi qui merci. L'Allemagne qui continue à traiter en douce avec le bloc, les élites Union européenne vont-elles être chahutées avant la guerre. Ben, à la limite, ce serait le mieux que les élites soient chahutées avant la guerre, histoire que. Mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait qu'elles soient véritablement purgées et remplacées par des élites alternatives au moment où la guerre commencerait, pour que l'Europe soit solide et justement qu'elle encaisse le mieux le premier choc. Je crains que, pour des raisons de timing, le compte n'y soit pas. Et donc, à mon avis, ça va pas se passer aussi bien que ça. Mais du chahutage, on approche de plus en plus à en voir, effectivement. L'Allemagne joue. Mais l'Allemagne, ça fait très longtemps. J'avais écrit un article, ça devait être il y a presque une dizaine d'années, dans lequel je disais l'Allemagne passager clandestin de l'Occident, en expliquant qu'à la fois elle. Ben, c'était un petit peu aussi des choses qu'ensuite Donald Trump a dit, hein, qu'elle profitait du gaz russe, qu'elle était complaisante avec la Chine parce que elle avait intérêt à lui vendre des trucs, même si ça coûtait très cher au reste de l'Occident, etc. Donc ça, avec la Chine, c'est un peu un vieux problème. Voilà, alors je vais regarder quand même si nous avons eu d'autres choses via Tipeee notamment. Ah, il faut que je retrouve les onglets. Depuis quelque temps, j'ai des problèmes au redémarrage de Chrome. Je sais pas pourquoi. Pendant que je suis en train de chercher ça, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir. J'ai repris les campagnes de promotion parce qu'elles fonctionnent pas trop mal. Donc du coup, ça fait venir des nouveaux venus. Alors si vous êtes intéressé par le contenu gratuit que vous avez déjà pu en consulter un peu, ben, n'hésitez pas à aller consulter le contenu ben, pas gratuit pour le coup, auquel vous pouvez avoir accès. Ça vous rajoute. Ouais, entre 4 et 5 heures de contenu par mois avec entre les bulletins et les lives privés notamment. Toutes les offres souscription sont en lien sous la vidéo. Nous, ça nous aide beaucoup, c'est très important. Il n'y a qu'à peu près 10% des gens qui regardent la totalité des contenus. Alors, c'est déjà un chiffre qui a augmenté depuis il y a 6 mois, mais on est encore très loin de chiffres qui, à mon sens, seraient satisfaisants. S'il y avait ne serait-ce qu'un quart de la totalité des gens qui regardent la totalité du contenu gratuit qui nous soutenaient un peu, on serait déjà beaucoup plus autonome et on pourrait encore faire beaucoup plus de choses. Donc n'hésitez pas, même comme on dit, les petits ruisseaux font les grands fleuves. N'hésitez pas à même lâcher des tout petits types. Ça nous aidera bien, ça nous fera. Et puis c'est toujours motivant, voilà. Alors nous avons Lirt qui nous a donné son gros tip mensuel, juste avec un petit hochement de tête. Donc on le remercie beaucoup pour ça. Je vérifie si nous avons eu des nouveaux venus dans les souscriptions. Et je vois pas de nouvel abonnement depuis quelques temps. Donc n'hésitez pas, hein, c'est l'occasion. C'est Noël, faites-vous plaisir. Rejoignez-nous et soutenez le travail de l'Historionomie, puisque pour qu'on continue aussi les campagnes de promo et l'accroissement du nombre d'abonnés, on a gagné 500 à peu près dans les 15 derniers jours. Ben, il faut qu'on voit que c'est rentable. Si ça l'est pas forcément, on trouvera autre chose. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vais aller rejoindre nos chers souscripteurs pour répondre à toutes leurs questions, en tout cas au maximum de leurs questions dans le live privé qui va suivre. Je leur dis à tout de suite. Et aux autres, je dis merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit pouce. Je sais pas combien on en a là parce que ça s'est pas actualisé sur mon PC. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ouais, j'en vois 182. On peut arriver à 250 quand même. Vous étiez 500. Je pense que la moitié des gens peuvent mettre un petit pouce. C'est très bon pour le référencement. Et Dieu sait qu'on a besoin de référencement. Les places sont chères. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats. Vous laissez pas faire.